Bonjour à tous, bienvenue à cette journée d'études consacrée à Knowledge Management, donc organisée par le CNAM et en particulier l'INTD. Donc je m'appelle Gonzague Chastenay, j'ai une double casquette, je suis professeur associé au CNAM et je coordonne et j'ai créé un certificat de spécialisation en gestion des connaissances. Un certain nombre des auditeurs qui suivent, qui ont suivi ou qui vont suivre ce certificat sont présents dans cette salle. Et je suis aussi directeur associé d'un cabinet de conseil en gestion des connaissances et gestion de l'information qui s'appelle Ourouk. Et donc, nous avons par exemple actuellement 5 clients que nous accompagnons dans la gestion des connaissances. Aujourd'hui, ce programme, c'est un programme qui se veut plutôt opérationnel, avec cette idée que la gestion des connaissances, le knowledge management, une démarche qui a commencé il y a déjà 25 ans au moins. Certaines personnes dans la salle, on a pu échanger, ont une pratique de la gestion des connaissances depuis plus de 20 ans. Ils ont fait partie de ces pionniers. Personnellement, j'ai été knowledge manager chez Ernst & Young il y a plus de 20 ans. Et donc, après, je me suis spécialisé dans le sujet. L'idée étant de partager des expériences de knowledge manager pour répondre à vos interrogations, mais aussi de prendre un peu de recul. Ça sera l'objet de la fin, de la deuxième partie. Alors, le programme, vous le connaissez, je le rappelle. Je vais faire l'introduction. En rappelant quelques idées sur la norme, vous savez qu'il y a eu un grand tournant pour le knowledge management il y a un an, en novembre 2018, c'est que norme ISO, la 3401, a été publiée, confirmée en mars par une norme AFNOR, qui a le même contenu. Donc je ferai un point sur cette norme, de voir jusqu'où en fait elle nous guide et un peu les questions qu'elle pose. Je terminerai par une présentation de ce certificat. Qui peut intéresser certains d'entre vous. Ensuite, je donnerai la parole à Agathe Teboul, qui est là, qui est Knowledge Manager de l'Autorité des marchés financiers et qui est une ancienne de l'INTD. Puis Louis-Pierre Guillaume, qui est là, qui est ancien Knowledge Manager de Schneider Electric et qui est aussi consultant et qui est aussi membre du bureau de Copain. Dont dira peut-être un mot, qui est une communauté de knowledge managers plutôt de grands groupes. Il vous parlera essentiellement des communautés de pratique dont il a, si je puis dire, une pratique opérationnelle très importante. On s'arrêtera vers midi et demi, 13 h. On a 2 h pour la pause du déjeuner, donc peut-être qu'on débordera, ça dépend aussi beaucoup de vos questions. Vous aurez 15 minutes après chaque intervention pour discuter avec l'orateur, avec la salle. On reprend à 14 h 30. Donc là, un praticien, Brice Bossan, c'est pas un knowledge manager, c'est le directeur, il se présentera lui-même, du bureau d'études d'exécution du groupe Eiffage Génie Civil. Donc c'est un homme de terrain et qui a développé depuis plusieurs années une démarche de knowledge management au départ au sein de son bureau d'études et puis après il essaye de l'étendre et c'est aussi un de mes clients. Ensuite, Jean-Pierre Boucher, qui est un universitaire, mais qui a écrit, abordé le knowledge management d'un point de vue opérationnel, qui est allé interviewer des personnes. Bon, il nous partagera ses réflexions, mais c'est sûr qu'on aura là une prise de recul toujours intéressante. Puisqu'en fait, ceux qui s'intéressent à la gestion des connaissances savent que je pense, une bonne démarche de gestion des connaissances, c'est une démarche qui alterne ou qui fait la synthèse entre une vision ambitieuse, théorique, parce qu'il y a beaucoup de concepts derrière, et c'est normal, une colonne vertébrale intellectuelle et une mise en pratique. Alors, la dernière partie que j'ai pompeusement appelée la table ronde, les priorités du démarche KM aujourd'hui, mais sans préciser ni de sujet très précis, ni d'intervenant, c'est fait exprès, c'est à vous de prendre la parole. Donc, les intervenants seront présents, mais ce que nous aimerions, c'est que ceux qui ont une expérience la partagent. Donc, vous aurez 5-10 minutes, hein, si vous êtes consultant, knowledge manager, que vous avez mis en place, que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit, ou au contraire, vous vous y retrouvez. C'est intéressant de partager les pratiques, de présenter des nouvelles orientations du knowledge management. Est-ce qu'elle va être phagocytée par la qualité, reprise par les DRH? Est-ce qu'elle va être avalée, dépassée par l'intelligence artificielle? Voilà, c'est des questions qu'on trouve actuellement dans la littérature. C'est intéressant que si vous avez des éléments de réponse, que vous puissiez les partager. C'est une journée d'études, c'est pas un cours. Donc, cette dernière partie doit être vivante. Alors, premier temps, trois quarts d'heure, pour vous présenter ce qui me semble être les éléments prioritaires d'une démarche KM aujourd'hui, avec un point particulier sur les PME, parce que autant il y a 25 ans, le knowledge management a été un sujet de grands groupes. On pense à, bien sûr, l'industrie nucléaire en France, les pétroliers, les grands cabinets de conseil, Ernst & Young, dont je faisais partie, bon, qui ont été pionniers en la matière, avec une impulsion nord-américaine assez importante, où à l'époque, il y avait un choc, je pense, entre la vision nord-américaine du knowledge management et la vision française. On verra qu'avec la norme, il y a une convergence entre ces deux approches, peut-être pas une fusion, mais en tout cas une convergence. Donc, comme je le disais tout à l'heure et que je vais repréciser, cette norme ISO 3401, alors ça a l'air de rien, mais il y a 25 ans, le KM, c'était une utopie. Ceux qui ont participé à ces démarches se souviennent que, comme moi, on s'est fait traiter de doux rêveurs, de personnes qui étaient à côté de la plaque par rapport aux enjeux de l'entreprise. Enfin, cette idée de relire son expérience, de partager ses ressources, avait un point de vue presque spirituel et rien à voir avec la réalité économique de l'entreprise. Bon. Aujourd'hui, ces débats sont totalement caducs. Voilà. Donc, le KM, une utopie qui est devenue un standard, il faut quand même le relever. Maintenant, ça reste la norme ne dit pas tout, elle donne un champ de construction et c'est ce que j'aimerais, en fait, vous partager. Avant de rentrer dans le détail, on va quand même relever que le knowledge management a connu des périodes d'oscillation, de dualité. Il y a eu une époque très capitalisation, ensuite une époque plutôt de collaboration, très orientée sur le collaboratif, le KM 2.0. Je pense que cette dualité, elle est intéressante, mais il faut la dépasser. C'est-à-dire il y a toujours besoin de capitalisation en complément du monde collaboratif. Et qu'aujourd'hui, la priorité, c'est plutôt le KM au service de la transformation digitale, à côté d'autres leviers, comme l'intelligence artificielle ou le big data. Mais il y a clairement, pour les acteurs, pour les knowledge managers, une attente de leurs sponsors que le KM soit un levier de transformation. Et on verra dans les interventions d'aujourd'hui comment aujourd'hui des acteurs du KM arrivent à transformer leurs pratiques métiers. On voit aussi, et c'est un peu une question qu'on aura à traiter, c'est comment des acteurs traditionnels de la transformation des organisations, la qualité, les ressources humaines, qui ont vu arriver ce nouveau venu, ce nouveau processus qui est le knowledge management, comment ils l'intègrent, comment ils veulent se l'approprier, et comment donc le knowledge management réussit ou a du mal à trouver sa place dans une organisation. Quelques mots sur cette norme. ISO 3401, vous pouvez vous la procurer en français ou en anglais sur le site de la FNOR, ça doit coûter un petit peu moins de 100 €. Il y a une version donc mars 2019 qui a exactement au mot près le même contenu, mais qui a estampillé AFNOR. Voilà. Alors, je ne vais pas faire un cours, une analyse détaillée. Il y a une question. Qui a déjà lu cette norme? Pas énormément de monde. Hein. Bon, lisez-la. Surtout, si vous n'avez que peu de temps, je vous propose de lire les chapitres 4, 4, 5 et les annexes. Les annexes sont très importantes parce qu'elles donnent pas mal de corps à la notion de connaissance. Donc ça permet de bien comprendre l'ampleur, de montrer que pour cette norme, les connaissances, c'est pas uniquement les connaissances explicites, c'est aussi des connaissances tacites. Ça dit beaucoup de la dimension humaine qu'accordent ceux qui ont écrit cette norme au knowledge management. Donc c'est intéressant de le voir. Les deux chapitres que j'ai surlignés, donc contexte de l'organisme, c'est là que le titre n'est pas très explicite, mais en fait c'est là que vous avez tous les leviers, levier outils, levier de gouvernance, le processus KM, qui sont décrits. Et une partie importante, tout le chapitre 5 sur le leadership, donc sur le management. Je trouve ça très intéressant de voir que la norme a décrit tout un paragraphe sur l'importance du management, des sponsors, peut-être un peu moins le management intermédiaire. Voilà. Donc, lisez-la. Il y a un mot ambitieux, mais on est dans une journée d'études, c'est le mot holistique qui est cité par la norme, qui veut simplement dire que la vision... C'est que cette norme, c'est pas qu'un catalogue de leviers, de moyens. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de notes qui permettent d'illustrer les moyens à mettre en œuvre. Donc, qui vont citer ce qu'on va appeler un portail KM ou un knowledge manager, mais qui vont même beaucoup plus loin que ça, qui donnent sur l'implication personnelle, sur l'évaluation, sur le mindset, sur la mentalité. Bon, au-delà de ce catalogue, le mot holistique rappelle qu'il y a une volonté de cohérence, de globalité, qu'il y ait des interactions entre ces leviers. Et je trouve ça très intéressant. Mon constat, c'est que la norme ne dit rien de ces interactions. Donc c'est à inventer, c'est à décrire, mais c'est important que ce soit présenté comme ça. Pour conclure sur la norme, la grande question qui est très souvent posée, c'est est-ce qu'elle est certifiante? C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes une entreprise qui s'est lancée dans une démarche de knowledge management, est-ce que vous pouvez être certifié ISO 3401 par la FNOR? La réponse est non, pas aujourd'hui, mais la FNOR est ouverte à lancer une démarche de certification, je les ai eu au téléphone. Il faut comprendre que pour la FNOR, une certification, c'est un produit. C'est-à-dire qu'ils le vendent, c'est une prestation, ils forment des auditeurs. Et donc, ils construisent un référentiel qui va permettre à des auditeurs de vous certifier. Pour construire ce référentiel, ils ont besoin de ressources, ils vont développer un produit. Et donc, ils ont besoin d'un marché. Et donc, leur réponse, c'est s'il y a un marché, on créera ce référentiel, on créera une offre. Donc, la question qu'il nous retourne, nous, aux acteurs du knowledge management, c'est, eh bien, montrez-nous que vous avez envie d'être certifié, trouvez-nous des entreprises qui ont envie d'être certifiées, et on créera le produit. Voilà, c'est la réponse qu'on peut faire aujourd'hui à la question de jusqu'où la certification. Quand on regarde le monde anglo-saxon, qui a activement participé à cette norme ISO, donc il y avait un groupe de travail international, on s'aperçoit que aussi bien les Anglais que les Américains, par les échos qu'on peut avoir, ne sont pas du tout dans cette approche-là. Pour eux, la certification, cette norme, ce sont des exigences. Ils reconnaissent l'intérêt d'être conformes, mais pour eux, la certification n'est pas vraiment une problématique. Voilà. Donc il y a une particularité française. J'aimerais comparer cette norme avec l'état de l'art. En fait, il faut déjà voir que cette norme reprend l'état de l'art. C'est-à-dire qu'elle arrive 20-25 ans après que des entreprises pionnières, notamment des grands groupes, On peut citer Areva, Schneider Electric, Luperella, Lafarge, des entreprises qui ont fait avancer, qui ont mis du temps parce qu'ils ont tâtonné, qui ont défini des bonnes pratiques. Et au fond, cette norme, elle reprend, elle fait un catalogue des bonnes pratiques, d'ailleurs sans vraiment hiérarchiser. Mais ce qu'on peut aussi observer, c'est que ces pratiques, en fait, vont plus loin où il y a, dit autrement, pour bénéficier de tout ce que peut apporter une démarche de valorisation des connaissances métiers, pour créer de la valeur, ce que rappelle d'ailleurs la norme, il faut aller plus loin que simplement mettre un catalogue de leviers ou de mesures, c'est-à-dire un outil, un knowledge manager, un sponsor, et puis une lettre, un mail d'envoi de la direction générale. Il me semble important de voir que cette norme manque de profondeur. Et donc, vous, knowledge manager, ou qui aspirez à le devenir, votre travail sera beaucoup de mettre de la profondeur dans ce catalogue, de ce guide qui est cette norme. Et il ne faut pas avoir là un dénigrement de la norme de ma part. Je suis très heureux qu'il y ait cette norme. Ça donne de la valeur au sujet. Ça reconnaît le sujet. Ça le fait sortir un petit peu des limbes où il était. Ça lui met en avant. Ça lui donne du sérieux. Il est reconnu. C'est-à-dire, aucun manager d'entreprise ne peut dire que c'est un doux rêve. Mais si on veut créer de la valeur et donc convaincre des sponsors internes de mettre des moyens, il faut aller plus loin. Alors, je donne quelques exemples que je vais ensuite illustrer. Un premier point, c'est sur l'alignement du knowledge management sur les enjeux de l'entreprise. Certes, la norme positionne le KM comme un levier de création de valeur, mais elle ne décrit pas l'impact des processus du KM sur les processus métiers. Et ça, c'est, je pense, une attente importante aujourd'hui des entreprises, c'est comment on transforme les métiers, et aussi secteur par secteur, j'y reviendrai dans ma conclusion. Sur l'implication de la direction générale, donc j'ai cité ce chapitre 5 qui le rappelle, c'est une très bonne chose, mais il me semble qu'il ne faut pas non plus négliger l'implication du management intermédiaire. On verra que ce qu'on observe, c'est que les démarches quand même fonctionnent bien quand elles ont un relais local, quand un responsable métier, un responsable d'une entité s'implique personnellement, sinon ça reste un vœu pieux qui vient du haut de la direction générale, mais qui percole pas dans les services. Voilà. Donc on a besoin de cette implication du management intermédiaire qui n'est pas assez décrit. Sur la gouvernance du processus KM, c'est un axe fort de la norme. Il est décrit, donc la norme reconnaît la nécessité d'installer le KM comme un processus. C'est pas uniquement un réceptacle de contenu, donc c'est une vision beaucoup plus dynamique. Ce sont des flux, mais aussi des flux qui ne vont pas de soi. Donc il faut animer par des rôles, le rôle de knowledge manager. Pour aller plus loin, pour être vraiment percutant, et nous, ce qu'on voit dans nos interventions chez nos clients, c'est qu'il faut décrire ces flux de manière assez précise. C'est pas les mêmes flux entre une observation, un retour d'expérience, une pratique de référence ou un guide métier ou de la documentation. Ça mérite d'être affiné si on veut être précis, opérationnel et convaincant. C'est trop général de parler d'un processus quand même en général. Sur la structuration de l'information. C'est un point qui est totalement négligé dans la norme, et c'est très dommage parce qu'en fait, vous créez de la connaissance si vous structurez de l'information métier. Si vous mettez en dialogue, en résonance, par exemple, des bonnes pratiques, un guide métier, un peu de théorie, avec des observations, des retours d'expérience, des métriques. S'il n'y a pas ces liens, et on va voir comment on peut le mettre en œuvre, eh bien, ça sonne creux, vous ne créez pas de la valeur. Il faut aller beaucoup plus loin que la norme pour créer de la valeur en structurant l'information, en créant des liens, en l'indexant. Et on voit là tout le métier traditionnel de la gestion de contenu qui est sollicité. J'observe que certaines entreprises qui ont mis en place des démarches de knowledge management sans professionnels de l'information, eh bien, ont une vision métier qui est tout à fait intéressante, mais il leur manque une capacité à mettre en œuvre, par exemple un portail KM qui tienne debout, qui soit efficace, et ça conduit à des catastrophes. Sur les technologies de l'information, le maître mot, c'est plateforme, interopérabilité. La norme fait une liste d'outils, mais il faut aller beaucoup plus loin. On verra d'ailleurs que même la plateforme dépasse uniquement le domaine du KM. Enfin, sur le rôle du knowledge manager, dont je reparlerai, et notamment quand je présenterai le certificat, certes, c'est un rôle qui est légitimé par cette norme, mais je dirais que la fiche de poste n'est absolument pas décrite, donc c'est quelque chose qui est à inventer. Maintenant, il faut aussi reconnaître que derrière ce terme, on a des rôles qui sont vraiment à géométrie variable. Vous verrez au moins trois knowledge managers s'exprimer. Ils vous décriront ce qu'ils font. Ça peut varier sensiblement d'une entreprise à une autre, suivant que vous êtes au niveau global, au niveau local, et des moyens dont on dispose. Alors, je regarde. 9h52. Je passe rapidement sur le processus KM. Déjà, de se conforter dans l'idée qu'il faut installer un processus KM, c'est-à-dire que tout ce cycle de transformation de l'information produite par les métiers, de hiérarchisation, de qualification, de créer des liens, ces liens entre les différents types de contenus, liens entre un guide métier, une observation technique capitalisée sur les métriques, donc tout ce qui ne se fait pas naturellement, eh bien il faut le définir et créer des sortes de réflexes. Et c'est là aussi qu'on voit que des entreprises qui ont moins de culture des processus transverses, eh bien, ont une première difficulté à mettre en œuvre une knowledge management, c'est qu'il faut, en fait, découvrir, en fait, mettre en œuvre un nouveau processus. C'est beaucoup plus facile quand on a déjà une culture de processus, quand on a déjà une 12 ou 15 processus d'entreprise. On en rajoute un, c'est beaucoup plus naturel que quand on doit l'installer, quand l'entreprise, et ça peut être le cas de certaines PME, découvre ces approches processus. Pas négliger aussi ce que j'ai mis en bas, c'est-à-dire que le pilotage, la gouvernance du KM lui-même, qui est un des éléments du processus KM, ça renvoie à construire des indicateurs, mettre à jour continuellement la communication, piloter avec un comité de pilotage, mobiliser le sponsor, voilà. Toutes choses qui font qu'il y a une dynamique qui se crée et qui est maintenue en permanence pour pas que la démarche KM ne soit que suite à un programme KM un peu, on met une emphase, on met de l'énergie, on met des euros pendant quelques mois, quelques années, et puis après, on pense que ça va tourner tout seul. Or, ça ne tourne pas tout seul si on ne relance pas continuellement la machine, le processus. Sur les technologies, là je suis dans les deux parties, je dirais, la vision un peu mécaniste, c'est-à-dire ce qu'on va mettre en œuvre pour que ça tourne, pour que ça fonctionne indépendamment de l'humain, puis après on va voir la nécessité d'avoir une dynamique humaine et comment on mobilise ces dynamiques humaines. Sur les technologies, donc le portail KM, ce qu'on peut observer, notamment pour les PME, c'est qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez facile à faire, qui coûte pas cher. Vous prenez la technologie que vous avez, ça peut être du SharePoint, de l'Office 365, ça peut être de l'Helium ex Knowledge Plaza, du Jamspot, du Knowings. Enfin, il y a suffisamment d'outils sur le marché qui vous permettent de mettre en œuvre un portail KM avec de la gestion de documents, de la gestion de contenu, un moteur de recherche intégré, des petits workflows. Ça ne pousse pas la technologie dans ses retranchements, alors qu'il y a d'autres aspects de la plateforme ECM qui peuvent pousser la technologie dans ses retranchements. Donc, la question du choix de la plateforme, si vous ne l'avez pas, eh bien, il faut peut-être l'acquérir, mais très souvent, je vois chez nos clients, ils ont pris du SharePoint parce que SharePoint était là, et ont fait un très bon portail KM avec une base SharePoint. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, il faut la concevoir, donc, mettre organisée, structurée, avec des thématiques critiques, et c'est quelque chose qui demande une réflexion, je vais y venir tout à l'heure. Il faut mettre en place des circuits, éventuellement aidés par des workflows. Bon. Ce que j'observe, je pense à un client, un groupe cimentier de taille moyenne du nord de l'Afrique avec lequel on a travaillé l'an dernier. En un an, on est passé d'un mail du sponsor qui a donné l'autorisation, on a défini le process, on a fait un cahier des charges, on a trouvé un prestataire, on a installé un portail, et en un an, on a les moyens d'amorcer la pompe. C'est-à-dire qu'on a les moyens d'avoir un outil, un process et quelques référents qui permettent de récupérer de l'information qui vient des usines, partager des documents techniques qui viennent du siège, animer quelques communautés de pratique sur des thématiques qui sont critiques pour cette industrie cimentière. Voilà, en un an, ça peut fonctionner. Alors ensuite, le plus dur reste à faire, je suis d'accord, c'est-à-dire de continuer à mobiliser les acteurs sur le terrain pour qu'ils alimentent cet outil et qu'ils prennent aussi l'habitude d'aller chercher de l'information. Mais aujourd'hui, là, on peut dire qu'on a quelque chose de plus rapide qu'il y a une certaine époque, c'est que en un an, et pour 50 à 100 000 euros, vous pouvez avoir un début de portail KM qui fonctionne, opérationnel, et qui donne des résultats. Ensuite, c'est launch and learn, comme disent les Anglais, c'est-à-dire il faut partir de quelque chose, le faire vivre, et ensuite l'ajuster. C'est l'image de la spirale que je reprends souvent. Il ne faut pas se casser la tête à vouloir imaginer des cahiers des charges très compliqués. Prendre des standards, vous trouvez suffisamment de la littérature ou des gens qui peuvent vous définir des portails, et vous le lancez, pas se casser la tête, et ensuite, il faut fonctionner, il faut animer. C'est ça qui est le plus difficile. Juste en passant, même si ça nécessiterait de longs développements, ce que je peux observer, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment des PME, qui nous disent, mais ok, il y a le KM, mais on a un dossier client, on a un RSE, on a un projet d'archivage, voire d'archivage électronique. Comment on associe tout ça? Et est-ce qu'au fond, le KM, c'est pas tout ça? Bon, c'est un peu le risque du grand chaudron, hein, du projet fourre-tout, c'est-à-dire que le KM devient un projet qui englobe toutes les démarches de transformation digitale, finalement. Alors, non, un dossier client avec une GED, c'est pas le KM. Un RSE, un réseau social d'entreprise, certes, on peut aussi utiliser le même outil, mais c'est pas la même chose. Souvent, c'est plutôt un bac à sable. Le KM, il a un domaine, et pour ça qu'il faut vous faire une charte KM au démarrage, il faut bien définir les contenus, il faut définir donc les types de contenus, il faut définir les connaissances critiques que vous voulez mobiliser, aller chercher, et donc assigner un rôle particulier au portail KM, à côté d'autres initiatives qui peuvent être associées dans un programme de transformation digitale, mais qui sont foncièrement différentes. Alors, sur cette structuration des contenus, un point dont je disais tout à l'heure que la norme ne le décrit pas tellement. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ce schéma, c'est quand même assez proche de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contenus numériques actuels qui sont une reproduction très, 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 très proche de dossiers papier. On retrouve une arborescence Windows, on a scanné des dossiers, et même la documentation, elle se retrouve dans cette organisation-là. Donc, ce qu'on veut faire avec une démarche de knowledge management, c'est passer à une mise en réseau de contenu, une mise en relation. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Si je prends l'exemple d'un cabinet d'avocats, par exemple, avec lequel on a pu travailler, c'est de constater qu'il y a des contenus divers. Vous avez des textes de loi, vous avez les débats de l'Assemblée du Parlement qui justifient les textes de loi, vous avez des décrets, il y a de la documentation, il y a des livrables remarquables faits par des avocats sur ce sujet-là, vous avez des cas juridiques qui ont pu être décrits par une doctrine ou un service d'études, et puis il y a le contexte de votre client et il y a la consultation ou l'acte juridique que vous allez produire. Donc, tous ces documents, tous ces contenus, l'idée qu'on va avoir dans une démarche de knowledge management, c'est à minima de les relier. Alors, il y a relier pour deux objectifs. C'est historiquement d'être capable de retrouver pour comment on a pris une décision, donc pour quel est le cheminement, quels sont les liens qui ont permis de créer le document final que vous transmettez à votre client. C'est vrai dans un cabinet d'avocats, c'est vrai aussi dans le monde de l'ingénierie. Brice Bossan vous en parlera cet après-midi. Bon. Mais c'est aussi, dans un deuxième temps, quand vous faites une recherche sur un contenu, un peu à la découverte dans votre portail KM, d'être capable de naviguer pour trouver des informations que vous ne cherchez pas forcément. C'est-à-dire que le knowledge management, une base de knowledge, doit vous offrir des contenus qui sont pertinents, mais qui ne sont pas forcément ceux que vous cherchez. Et c'est là que ces liens se voient aussi, qui peut être un physique, un lien, mais soit des liens qui sont créés automatiquement par des moteurs de recherche, mais ça peut être aussi des recommandations, et c'est l'intérêt aussi de mixer des bases très formelles avec des espaces collaboratifs, avec des lieux de recommandations où dans un forum, on vous propose d'aller voir de l'information. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater, c'est-à-dire qu'un portail KM, c'est pas uniquement de compiler des contenus qui existent ou qu'on va produire de type des REX pour la démarche KM, mais il y a tout un travail de relier, soit logiquement, soit physiquement, soit par une dynamique humaine, et là qu'on voit que ça, l'outil ne peut en faire qu'une partie. Donc on a besoin de personnes qui nous aident à avancer dans ce sens. Un dernier point sur la gouvernance des contenus, c'est sur les cartographies de connaissances critiques. C'est un sujet qui émerge, qui se développe. On peut plus se contenter, comme on faisait peut-être au début, de récupérer les contenus qui viennent. Vous êtes knowledge manager, il y a des documents que les sites ou les knowledge workers ont bien daigné vous transmettre. Alors, vous êtes très content, vous récupérez, vous indexez, vous classez. Bon, ça, c'est une version passive, réactive. Ce qu'il faut, c'est être proactif, c'est-à-dire il faut se définir une ligne éditoriale, c'est une cartographie de connaissances critiques, c'est-à-dire de thématiques qui sont importantes à pérenniser, parce que c'est créateur de valeur ou différenciation. Bon. Et il faut donc cartographier ces connaissances critiques. Il y a un outil qui est finalement très simple, c'est les mind maps. Vous avez un exemple ici. Alors je l'ai fait là sur le knowledge management. Cet après-midi, Brice Bossan vous présentera ce qu'ils ont fait au bureau d'études des phages sur des informations techniques du génie civil. Bon, donc premier objectif, cartographier. Mais ce qui est aussi très intéressant, et c'est les effets secondaires managériaux de ce type de cartographie. Et Brice vous en parlera cet après-midi, mais je l'ai vu, bon, j'y ai participé, j'ai vu ça aussi chez d'autres clients. C'est-à-dire que quand vous commencez à mobiliser, mettons, une centaine d'ingénieurs, de techniciens pour créer une cartographie de leurs connaissances critiques, et qu'ils voient progressivement, itération après itération, ce schéma-là, pour leur domaine, donc on imprime ça, un grand panneau A5, on publie quelque part, chacun vient rajouter. Ça donne une vision des connaissances critiques, mais ça crée aussi une fierté d'appartenance. Il y a une dynamique humaine, une dynamique managériale qui se crée et qu'il ne faut pas négliger. Et donc on a là un outil finalement à double usage, un usage très opérationnel, mais aussi un usage managérial qui est un peu étonnant, qui est pas forcément que nous praticiens du KM avons découvert en le faisant. C'est pas forcément ce qu'on a cherché, mais c'est au fond presque le plus important. C'est-à-dire que vous avez une appropriation de la démarche par ceux qui en sont les acteurs, et c'est très important à repérer. Sur la gouvernance humaine, j'ai repris là mes trois visages. Quelque chose que j'ai développé dans d'autres supports, je ne vais pas revenir là, mais sur le fait qu'il y a chaque knowledge worker, il est un peu en tension entre une envie de participer au knowledge management, tout aussitôt une petite voix qui lui dit « mais tu vas être pillé, tu vas être critiqué, ceci, cela », donc toutes les raisons de ne pas le faire, et puis un argumentaire rationnel de combien ça coûte, combien ça rapporte. Voilà. On peut décrire ça pour chaque acteur du knowledge management. Le rôle d'un knowledge manager va être de dépasser ça, d'aider à ce que ça s'exprime, de crever l'abcès pour dépasser ça. Mais il faut voir que là, on est au cœur psychologique de la démarche de knowledge management et que on a vraiment besoin d'humains, de relais, de ce rôle de knowledge manager ou de relais locaux pour favoriser, pour briser ces freins et pour aller de l'avant et pour que cette dynamique s'instaure. Parce que sinon, vous risquez d'avoir... C'était la première approche, vous voyez, avec des processus, des outils, tout ça a l'air parfait, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que c'est quand même, à un moment donné, un acteur, vous voyez, un technicien, un juriste, qui décide de mettre ou de ne pas mettre un document dans une base, de faire ou de ne pas faire un REX et un vrai REX en disant vraiment ce qui s'est passé et ce qu'il a appris. Donc on a besoin de cette dynamique-là, on a besoin de relais locaux. On a aussi besoin d'un réseau de knowledge managers. Là, je donne une vision d'ensemble. Des knowledge managers de terrain, un knowledge manager qui coordonne l'ensemble, alors ça demande certains moyens, un sponsor, et puis une implication des managers intermédiaires pour que localement, parce que c'est localement que se créent les dynamiques. Quelques mots sur les PME. Les enjeux pour les PME, c'est très souvent à la fois d'innover et de refaire. Et c'est pas contradictoire. Comme me disait une personne, avec mes ingénieurs, si j'innove pas, ils s'ennuient, ils vont à la concurrence, mais si j'innove tout le temps, je ne gagne pas d'argent, parce que ça coûte cher d'innover. Et donc il faut trouver cet équilibre entre l'innovation et la réutilisation de ce qu'on a déjà fait. Et au fond, c'est ce qu'on observe dans tous les bureaux d'études, dans tous les cabinets de conseil, dans tous les cabinets d'avocats. Et suivant les sujets, eh bien, on est en avancée, on est plutôt offensif ou on est plutôt dans la réutilisation pour valoriser son investissement. Bon. Mais c'est quelque chose qui va être assez sensible. Et c'est les deux usages et les deux enjeux principaux qui sont au cœur de la mise en place du knowledge management dans une PME. Il y a un autre enjeu qu'il faut aussi regarder en face, c'est que l'avenir d'une PME, c'est souvent d'être rachetée par un grand groupe ou de fusionner avec une autre. Le knowledge management, c'est un moyen de pérenniser, éventuellement pour le valoriser. J'avais travaillé avec une PME du sud de l'Europe spécialisée en dessalement d'eau de mer, rachetée par un groupe anglais. Eh bien, ces gens-là avaient développé en 30 ans un savoir-faire extraordinaire en dessalement d'eau de mer, donc des enjeux très très importants. Rien n'était écrit, tout était oral. Et avec des cultures d'omerta, on ne partage pas son savoir-faire, tout passe par le directeur général, fondateur de l'entreprise. Vous voyez, quand vous avez un mode de fonctionnement comme ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas de processus, vous avez un formidable modalité de mise en œuvre de la gestion des connaissances, mais vous n'avez pas de processus knowledge management, eh bien c'est un problème quand vous voulez vous démultiplier à l'international. C'est-à-dire que le réseau humain, il est plus suffisant. Ces contacts personnels, c'est plus suffisant. Il faut trouver des moyens de démultiplier ça. Et l'investisseur, en l'occurrence ce groupe anglais, eh bien, il a vu que s'il veut valoriser son investissement, il faut que cette PME passe à autre chose en termes de gestion des connaissances et rentre dans une vraie démarche de knowledge management. Sur les moyens, j'en ai parlé, le portail, un knowledge manager pour 100 personnes, c'est quelque chose, alors pas forcément à temps plein, les intervenants pourront me dire si ça correspond à leurs observations ou pas, mais c'est quelque chose que j'observe dans beaucoup d'entreprises où nous travaillons, ce ratio, et qui permet en fait de vraiment dynamiser une démarche knowledge. J'en ai dit un mot, ce qui est le plus important, le plus prégnant dans une PME, c'est la culture. Alors, l'exemple typique, c'est une PME qui porte le nom de son fondateur et dont le fondateur est encore le directeur général. Il y a une culture d'omerta qui peut être redoutable, parce que souvent, la personne qui a créé l'entreprise, elle l'a fait à la force du poignet, elle a développé des connaissances elle a craint la concurrence toute sa vie, et quand vous lui dites, ben, on va essayer d'ouvrir, de partager, ça passe pas naturellement. Ce qui est aussi très remarquable, c'est que ses collaborateurs surinterprètent cette volonté de protéger l'information, et on arrive, si je reprends encore cet exemple de cette PME du sud de l'Europe, c'est que il y avait un métier très critique, c'est le start-up engineer, c'est les gens qui mettent en eau, qui règlent les usines quand on commence à faire passer de l'eau de mer dans les turbines pour faire de l'osmose inverse. Bon. Il faut imaginer que ces gens-là se réunissaient tous les lundi matin autour d'une table ronde, il y avait un côté comme ça, chevalier de la table ronde, et ils ne se parlaient pas de ce qu'ils faisaient dans les différentes usines. Parce que, me disait-il, le patron nous a interdit de parler. Voilà. Et quand j'ai demandé au patron fondateur, mais pourquoi vous avez interdit à ce qu'ils s'échangent des savoirs métiers, il m'a dit, j'ai jamais dit ça. Voilà. Donc, surinterprétation, et ça, je le vois très, très souvent. C'est-à-dire qu'il y a cette culture du silence, de la protection de l'information, et il faut savoir l'ouvrir quand on veut faire ces démarches de knowledge management. C'est moins fort, me semble-t-il, dans des entreprises qui sont plus impersonnelles, des grandes entreprises. La répartition géographique, quand on est sur le même plateau, on a le sentiment qu'on partage. En fait, quand on regarde bien, on va toujours voir les mêmes personnes. Donc, une démarche de knowledge, ça permet d'ouvrir et peut-être de découvrir des informations qu'on ne cherchait pas. Hein, toujours cette notion de sérendipité. Donc, même quand on est sur le même plateau, c'est intéressant de faire du knowledge management. Bon, pour terminer, un peu une démarche type. Donc, dans le temps, on va souvent, voilà, commencer par mettre avec un sponsor pour initier. C'est toujours quand même très très utile. Mais en général, les directions générales n'ont pas trop de problèmes pour signer un courrier pour demander. Maintenant, ça suffit pas. Mais c'est quand même bien de l'avoir, de leur faire signer une charte du KM. Un portail. J'ai dit que c'était facile d'une certaine manière. Ensuite, l'important de partir sur un métier, voire sur une discipline. Je reprenais l'exemple d'un cabinet d'avocats. C'est la discipline, c'est le droit social ou la TVA. Mais vous avez un KM du droit social et un KM de la TVA. C'est pas les mêmes intérêts. Il faut que les gens aient quelque chose à partager. Donc l'intérêt de commencer petit, associé à une communauté de pratique, Louis-Pierre nous en reparlera, un responsable métier qui y croit, qui soutient. Parce que s'il est sceptique, il fera rien, même si le sponsor lui a demandé de le faire. Bon. Ou alors, comme au siège de Nestlé, il y a quelques années, où le directeur général avait dit à ses troupes, si vous voulez votre bonus de fin d'année, vous mettez en place une démarche de partage. Mais on n'a pas toujours cette chance, voyez. Donc, il faut avoir ce relais localement. Et puis après, on étend, on passe à d'autres métiers, d'autres disciplines, avec des gens qui étaient peut-être plus réticents et qui voient que ça fonctionne bien et qui voient les apports, qui voient que les membres de cette communauté en parlent, ont une certaine fierté de ce qu'ils font, voire même se referment sur eux-mêmes pour pas partager avec les autres, parce qu'il y a un peu des dérives claniques parfois. Donc on étend vers d'autres métiers, et comme ça, dans le temps, ensuite, on va essayer d'avoir une démarche plus transverse, d'avoir une démarche de partage de connaissances au service non pas d'un métier, mais d'un processus. On verra ça cet après-midi avec le cas des phages aussi. Mais ça se fait dans le temps. Je pense qu'il faut pas vouloir commencer directement à ce niveau-là, c'est trop ambitieux. Il vaut mieux y aller maillon par maillon, construire progressivement la démarche. Je vais, ça pour rappeler donc dans la démarche, il me semble qu'aujourd'hui, donc on a la norme ISO, j'en ai dit les limites, il faut la compléter par des extensions précisées. Et de plus en plus, on va devoir décliner les démarches KM par secteur et par processus. On verra cet après-midi le cas du génie civil. On verra que l'AMF, un autre métier, c'est toujours les mêmes leviers, mais les enjeux sont différents, la manière de le mettre en œuvre va être différente. Et suivant les processus, c'est pas la même intégration qui est faite. Donc, et la partie du haut, je pense, est en train de prendre de plus en plus d'importance. On a même déjà une norme KM pour le nucléaire, sous l'influence de Jean-Louis Hermine. On aura peut-être, dans les années qui viennent, une déclinaison de la norme ISO 3401 sur d'autres métiers, beaucoup plus précise et intégrant les spécificités de chaque secteur. Pour terminer, quelques mots donc sur le certificat que nous avons lancé il y a 3 ans avec Ghislaine Chartron, directrice de l'INTD. L'idée étant de répondre à cette demande de, je dirais pas de former des knowledge managers, mais plutôt de fournir des compétences particulières, critiques, qui sont celles d'un knowledge manager, community manager ou chef de projet KM. ça dépend un peu de ce que les gens veulent faire et d'où ils viennent, et de la rapporter dans le cadre d'un certificat, c'est-à-dire 12-14 jours de cours, plus un travail personnel, avec des enseignants qui sont beaucoup des praticiens, il y en a deux dans la salle, Louis-Pierre et Agathe, et donc et moi-même, qui sommes enseignants, Aline Belloni, qui est par là, qui est aussi donc la société Ardence qui est enseignante. Donc des gens qui ont une expérience opérationnelle et qui veulent vous aider à vous approprier ces compétences, que vous soyez donc professionnel de l'information ou professionnel d'un secteur, donc juriste, informaticien, technicien, ou même des cadres. On a parfois des personnes qui sont ni du profil 1 ni du profil 2, simplement des gens qui sont disponibles en recherche d'emploi ou dans un grand groupe en attente de prise d'un nouveau poste, qui veulent découvrir ce sujet et ensuite le mettre en place dans leur entité. Elles ont toutes ces personnes-là, ces profils-là ont tout à fait leur place dans ce certificat. Donc le programme, il est consultable sur le site de l'INTD de manière très détaillée. Donc il y a une partie un peu sur les fondamentaux, la norme, mais bon aussi les concepts. C'est important d'avoir une colonne vertébrale intellectuelle sur le sujet. Ensuite tous les leviers que j'ai pu décrire, qui sont décrits. S'exercer à la cartographie des connaissances critiques, comment mettre en place une démarche de capture, se sensibiliser aux dynamiques humaines, ça va même jusqu'à des jeux de rôle, description de situations critiques, jouer des situations pour se préparer à les affronter et concevoir un programme KM avec des exercices pendant les sessions en présentiel et puis une étude de cas importante qui est restituée en groupe à la fin. Et un travail personnel, c'est très souvent le projet personnel de la personne. Et vous avez la chance d'être tutoré par des professionnels du knowledge management. Donc c'est une manière de tester votre plan d'action auprès de praticiens. Donc concrètement, ça commencera cette année. Alors, il y a quelques cours que j'ai pas mis en gras en février et en mars parce qu'ils peuvent être aussi pris. Ils seront possible de les avoir en FOD ou en rattrapage au mois de juin. Les cours absolument obligatoires sont en avril et en mai. Cette année, on va innover. Donc, il y a encore des cours en présentiel donc, qui sont nécessaires, mais une partie qu'on va passer en FOD, une étude de cas en groupe, jeu de rôle et un travail personnel qui est tutoriel. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, c'est la fin. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère qu'il y a des questions. Bon. Alors, où sont les knowledge managers dans la salle? Des gens qui sont des praticiens. Donc là, il y en a. Ici, 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 bon. Oui. Non, il n'y a pas. Alors ça, vous avez un comité, alors il y a eu le comité ISO, donc déjà intervenir sur une norme ISO, c'est pas simple. Ensuite, il y a eu un comité qui a validé la norme AFNOR. Donc, vous pouvez faire remonter. Là, je suis pas un spécialiste des normes AFNOR, mais vous pouvez faire remonter des suggestions. Les normes sont destinées à évoluer. Il y a des révisions régulières. On a vu ça avec la norme ISO 9001, oui, puisque la version 2015 a intégré déjà un module KM. Donc, vous écrivez, enfin, vous remontez à la FNORM à des propositions, et eux étudient ça. Pour la norme ISO, je connais moins, je pense que ça doit être assez plus difficile. Je ne sais pas certaines personnes savent. Mais en tout cas, sur les normes françaises, il faut faire remonter les demandes à la FNOR. Oui, Ghislaine. Alors, Agathe nous en dira, puisqu'elle est à l'autorité des marchés financiers. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une spécificité de l'administration vis-à-vis du KM. Je pense que peut-être culturelle, mais ce qui est prégnant, c'est beaucoup le métier et la culture liée à la taille, parce que les éléments que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, le monde public est moins présent, même si je note que notamment le monde de la sécurité sociale est en train de s'y mettre. Plusieurs éléments objectifs qui montrent que le monde de la sécurité sociale, qui est sous pression d'efficacité, qui a beaucoup de compétences diverses, de métiers divers, qui est réparti sur tout le territoire national, pourrait mutualiser des compétences. Et donc, c'est un sujet qui est vu de près. Il y a des démarches. Je connais une knowledge major dans le monde de la sécurité sociale. Bon. Alors, sur la norme ISO, elle était... combien de pays? Ceux qui ont été le plus actifs, enfin en tout cas qui se sont exprimés, ont été les Anglais, les Américains. En France, c'était un groupe mené par Jean-Louis Hermine, que tu connais. On sent à travers ce qu'on a pu savoir des échanges qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est un bras de fer, mais en tout cas des luttes d'influence entre la vision anglo-saxonne, qui est très process, mais pas tellement structuration d'information, et qui a plutôt imprimé sa marque. Je ne sais pas si du côté d'Ardence vous avez des informations sur les luttes d'influence entre la culture anglo-saxonne ou versus culture française sur cette norme. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, une norme ISO, en plus, elle est calquée sur le niveau et voilà, on est vraiment dans les process. Et on voit que, comme vous précisiez, il ne suffit pas de mettre en place ou d'écrire des bons process pour que ça puisse. Voilà. Mais moi, on a quand même le sentiment que c'est plutôt l'influence anglo-saxonne qui a prévalu, mais peut-être que ça peut se rééquilibrer par la pratique. Monsieur ?
Oui. Vous avez parlé de différences d'approche entre justement anglo-saxonne et puis française.
Oui.
Moi j'interviens chez les cabinets d'avocats parfois anglo-saxons.
Oui.
Où les anglo-saxons ne vont pas choisir notre outil alors que Paris va parfaitement le faire. Est-ce que vous pouvez caractériser ces différences d'approche en 30 secondes? Qu'est-ce que ça fait?
Je pense qu'il y a une culture du process anglo-saxonne. C'est clair. Il y a moins de sensibilité à la structuration d'information. La notion de livre de connaissances tel qu'a pu le développer en France Jean-Louis Hermine, voire même, ce que pourrait nous dire Ardan serait intéressant, ce que vous faites, qui sont pas des livres de connaissances, mais enfin qui sont des rédactions très structurées, une capitalisation très structurée de savoir-faire. Je suis pas sûr que le monde anglo-saxon soit très friand de ça. Enfin, j'ai pas le sentiment. Donc c'est là que je verrai la différence. Il y a un pragmatisme anglo-saxon qui était intéressant au démarrage. Je me souviens, il y a 20-25 ans, c'est vrai qu'en France, les intervenants français avaient tendance à conceptualiser le sujet. Et il y avait les anglo-saxons qui, eux, étaient partis. Mais alors, parfois, ils disaient qu'un fichier Excel, c'est un outil knowledge management. Bon, pourquoi pas, mais... Ou SAP qui disait qu'ils faisaient du knowledge management avec un module de gestion de la doc. Bon. Donc, on a connu ça. Aujourd'hui, il y a une sorte de convergence, mais je pense qu'il y a une vigilance à avoir, je pense, chez nous. C'est pas pour promouvoir la culture française, c'est simplement pour dire, ce que je crois profondément, c'est que vous ne créez de la valeur dans une démarche de knowledge management que si vous structurez l'information pour qu'elle soit simplement réutilisable, et que si vous mobilisez pas les ressources humaines en leur expliquant, en étant un peu psychologue, eh ben ça marche pas. Vous avez un beau process. Donc, est-ce que d'autres pays, j'ai pas suffisamment d'expérience avec d'autres pays européens, est-ce qu'en Allemagne ou dans les pays du Sud c'est différent, je ne sais pas dire. Sans doute, ouais. Mais si je peux livrer un témoignage, j'ai travaillé avec des Marocains et l'Afrique subsaharienne récemment. J'ai animé des séminaires KM avec des directeurs d'usines et des futurs knowledge managers. Le discours, je leur ai tenu exactement le même discours qu'à vous, et ça accroche complètement. Et alors, il y a peut-être, comme souvent dans les pays émergents, ils découvrent ces sujets-là, ils se cassent point les cheveux pour avancer, mais les réticences vis-à-vis du partage et les problématiques de RH et est-ce que je vais être augmenté, etc., ils les ont aussi. Mais le discours est le même. Donc, je pense qu'il y a vraiment un discours universel sur le sujet. D'autres questions? Oui.
Qu'est-ce que, en fait, nous, que la norme, qu'est-ce qu'on attend au final de cette demande? Parce que vous en parlez beaucoup, mais est-ce que ça va changer les pratiques? Est-ce que ça va réinitier les PME peut-être à plus se lancer dans la démarche? Qu'est-ce qu'en fait ça va
Alors. Effectivement, des entreprises sont parties sans la norme, et c'est plutôt la pratique des entreprises qui a nourri la norme. Parce qu'en fait, quand on regarde le contenu de la norme, c'est les bonnes pratiques, ils ont fait une synthèse des bonnes pratiques. Bon, je pense que ça rassure des entreprises un peu hésitantes. Ça peut, en tout cas, une direction générale ne peut pas dire c'est un truc à la mode et ça va disparaître. C'est-à-dire que ça crédibilise le sujet. Maintenant, donc ça peut participer, vous voyez, de cette dynamique pour investir sur le sujet. Ça donne un cadre. Je pense, j'ai retenu le mot holistique. Je pense que c'est important aussi de rappeler que une démarche KM, pour ceux qui voudraient feindre de l'oublier, c'est pas uniquement un portail KM. C'est même pas uniquement un knowledge manager. C'est aussi un processus. C'est cet équilibre à trouver entre des leviers qui sont structurants et qui créent des automatismes, et puis de la gouvernance humaine qui est liée à des rôles de knowledge manager et puis à une implication du management intermédiaire. Et je trouve ça intéressant que cette norme soit équilibrée dans cette description, même si elle ne décrit pas les interactions, mais il faudrait plus de temps pour le faire, qui sont nécessaires pour créer une démarche cohérente. Donc c'est, vous voyez, on avance sur plusieurs pieds. Et ça, c'est intéressant que la norme le rappelle. Oui, monsieur.
Alors, ma question va concerner la conscience collective dans le knowledge management.
Oui.
Est-ce que les normes, ça amène à la socialisation? Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de dérive oligarchique dans ce domaine? Est-ce qu'on, pour limiter ce risque de dérive oligarchique, entre guillemets, sachant que c'est une affaire de spécialiste?
Vous pouvez préciser, oligarchique pour vous, ça serait quoi dans ce cas-là?
Oligarchique, on va dire que ça sera juste l'affaire de spécialistes du knowledge management qui connaissent les pratiques et les bonnes actions. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un système d'interaction entre le spécialiste et les agents de l'entreprise?
Je pense que Louis-Pierre répondra à votre question quand il parlera des communautés. J'ai insisté sur les rôles de knowledge manager, de sponsor, mais c'est tout un réseau. Il y a les knowledge workers, donc les travailleurs du savoir, qui sont fondamentaux. On parlait aussi des experts. Donc, je suis d'accord avec vous, ça ne doit pas être une affaire de spécialiste. Toute la difficulté, c'est que tout collaborateur se sente impliqué et donc qu'il devienne acteur. Mais on a besoin de rôles spécialisés pour dynamiser, parce que l'expérience montre que ça ne se fait pas de soi. C'est-à-dire même les gens les plus généreux, ils savent pas comment faire. Comment vous faites pour faire un vrai REX, pas uniquement une fiche où vous cochez des croix sur les livrables que vous avez fournis, où vous prenez du recul. On réhabilite le dialogue. On a besoin d'avoir quelqu'un qui vous aide à prendre du recul et à savoir ce que vous avez appris. Bon, je vais on aura du... Gardez vos questions pour ce soir à la table ronde, on aura du temps. Je voudrais qu'on garde le planning. Donc je vais laisser la place à Agathe.